Des amours malades, chapitre 5. La jeune femme qui était entrée accompagnée par la secrétaire du professeur Ledoux était le pendant de Michael au féminin. Lui sur une page et elle sur une autre, et le magazine qui aurait publié leurs photos aurait fait fortune. Chacun de nous la regardait sans parler. Nous avions tous notre bonne raison pour la dévisager. Michael, parce qu'il était un amant du beau sous quelque forme qui se présenta, moi, parce que j'étais un homme dans tous les sens péjoratifs du terme. Un homme, si tu le dis. Et Hélène, parce que la beauté chez leurs semblables pousse les femmes à s'interroger sur leur propre aspect, provoquant des comparaisons qui, dans le cas présent, n'étaient malheureusement pas favorables à la cardiologue. Ce fut elle qui se reprit le plus vite et se leva pour accueillir le nouveau médecin. J'espérais pour nos malades plus âgés qu'elle se changerait avant la visite, car dans le cas contraire, son habillement en aurait tué plus d'un. Elle chaussait des bottillons de cuir marron dont les talons aiguilles cambraient un mollet qu'elle avait merveilleusement galbé. La jambe était voilée d'un collant à rayures horizontales, fuchsia, beige et tête de nègre. Une jupe foncée, si l'on pouvait appeler jupe ce minuscule morceau de tissu, couvrait à peine des cuisses longues et musclées. Un court pull, fuchsia également, moulait une poitrine haute et ferme. Dans le V de l'encolure était nonchalamment nouée une fine écharpe de soie de la même teinte de la jupe. Un blouson coordonné aux chaussures terminait cet habillement peu adapté au lieu. Le visage était hâlé, les pommettes hautes et saillantes, les magnifiques yeux noirs se tendaient vers les tempes. Et trouver un défaut à ce nez aux proportions idéales relevait de la mauvaise foi. Ses cheveux, d'un noir éclatant, descendaient lisses et volumineux jusque sous les fesses. Michael me lança un coup d'œil qui voulait dire « Je t'y prends, mon gaillard !» Je haussai les épaules insensiblement. Les deux femmes se serraient déjà la main et échangeaient les banalités d'occasion. Et sa voix, mon Dieu, sa voix, chaude et vibrante avec un accent que je ne reconnus pas. Cette voix fut comme un coup de poing dans mon estomac, déjà torturé par l'ulcère, quand elle prononça le bonjour qui m'était adressé. Je pâlis tout en prenant la main qu'on me tendait et frémis en sentant la force de la poigne. Les ongles longs étaient laqués de rouge sombre. Je perçus ma propre voix comme lointaine et cotonneuse. « Je vous souhaite la bienvenue, » articulai-je avec douloureuse difficulté. « Je suis très heureuse de te connaître. » Elle en était déjà au-dessus. Grandiose. Elle salua Michael, qui se mit immédiatement à la page en l'appelant par son prénom, Maïté, et en la tutoyant lui aussi. Nous apprîmes qu'elle venait de Madagascar et s'était installée en France récemment. Elle avait commencé son année chez elle, mais ayant trouvé ce poste vacant, elle avait voulu l'occuper tout de suite, de peur qu'il ne lui échappât. Le docteur Mouret vous expliquera les habitudes du service et vous prendra sous son aile tant que vous en sentirez le besoin. Vous arrivez le jour de ma visite, vous en profiterez pour connaître tout le monde. Je vous verrai cet après-midi et nous pourrons parler plus en détail de votre formation passée et à venir. Amélie, ma secrétaire, devrait vous avoir procuré une blouse. Enfilez-la et venez avec nous. Pendant qu'elle se préparait, Micha et moi nous regardâmes. Le cœur de Monsieur Gallien, un septuagénaire porteur de 3 bypass, ne résistera jamais à cette vue, me murmura l'assistant. J'ai eu la même idée que toi, confessai-je. Et le tien, voulut savoir Micha avec la curiosité qu'il usait seulement à mon égard. Le mien? Ton cœur, ton pauvre cœur. « Tu as une couleur épouvantable. Je ne savais pas que la vue d'une jolie fille te faisait cet effet-là. Aujourd'hui, tu me sembles un peu dissipée avec la jante féminine. Moi qui croyais avoir encore quelque espoir, » fit-il sur un ton qui ne me parut pas aussi badin qu'il voulait paraître. « Tu te trompes, » rétorquai-je brusquement. « À quel propos? Je t'assure que tu as un teint qui fait peur. Ou voudrais-tu me dire que je ne dois pas abandonner mes espérances ?»« Micha, s'il te plaît, » le priai-je d'une voix blanche. « J'aimerais mieux que tu ne m'appelles pas comme ça en public, » me fit-il remarquer doucement. « Excuse-moi, j'ai l'impression d'avoir vu un revenant, » finit-il pour moi. « Il est génial, ce petit Alexandre. Tu dois en convenir. » J'acquiesçai en avalant une salive brûlante et amère. J'aurais voulu avoir une excuse pour m'en aller, pour ne pas suivre une visite qui allait durer 3 heures, 3 heures durant lesquelles je devrais m'efforcer de sembler en grande forme, quand je sentais au contraire monter en moi un profond sens de panique. Je ne pensais pas être capable de rationaliser cette sensation de danger imminent, cette impression que j'allais finalement être anéanti. L'anéantissement, en soi, représentait en fait une échappatoire, la fin de mes tourments, une libération désirée depuis si longtemps, une libération déjà conçue et avortée. Mais je ne souhaitais en aucun cas me donner en spectacle. Toi qui es toujours si discret. J'étais terrorisée à l'idée de m'écrouler au beau milieu de mes collègues, devant des malades qui n'avaient certes pas besoin de mes états d'âme branlants. Terrorisée à l'idée de devoir fuir pour éviter de regarder ou d'entendre. Marie-Thérèse Souala. Maïté. Reprends-toi, Alexandre. Tu ne t'es jamais donné en spectacle, tu ne vas pas commencer maintenant. J'avoue qu'il y aurait de quoi. Mais tu es capable de grandes choses, nous le savons tous les deux. Secoue-toi, mon Dieu. Le devoir nous attend, prononçai-je avec effort. Allons-y. Michael me posa une main sur l'épaule et la serra fortement. Ce contact m'instilla le courage nécessaire pour sortir du bureau et rejoindre le patron ainsi que la nouvelle interne. Mais pendant les 3 heures à venir, Micha n'aurait certes rien pu pour moi et j'aurais dû ne compter que sur moi-même. Parce que jusqu'ici, je savais déjà que ce serait la croix et la bannière. La visite fut ce que j'avais imaginé, un calvaire, un constant combat pour contrôler mes réactions. J'étais tellement concentrée sur moi-même que Michael tira ma manche plusieurs fois pour attirer mon attention et m'obliger à répondre aux questions que l'on me posait. Puis, vers 12h30, tout cela enfin se termina. Je n'attendis pas Michael et me précipitai dans mon bureau. J'ouvris en grand le robinet d'eau froide et m'aspergeai abondamment. Puis je me penchai pour boire. Michael me surprit la tête dans le lavabo. Tu m'expliques ou je dois deviner, me fit-il avec une sollicitude touchante. Je ne l'avais pas entendu entrer, je sursautai et battis la joue contre le robinet. Je me redressai avec un juron tout en me massant le visage. Michael s'approchait de moi contrit. Je suis désolée, je ne voulais pas te faire peur. Mais quand cette maudite journée finira-t-elle? Soufflai-je tristement. La douleur qui envahit ma mâchoire eut l'effet de calmer un instant l'angoisse que je ressentais. Une impression fugace de bien-être, l'oubli de la douleur morale dans la douleur physique. Je pensais aux hommes dont parlait l'article sur l'anorexie. L'automutilation destinée à l'apaisement des blessures de l'âme. Alexandre! Je n'étais pas anorexique et je ne m'infligeais pas de blessures intentionnellement. Mais pendant un instant, j'eus l'impression de comprendre ces pauvres diables couverts de cicatrices qu'ils s'étaient procurées eux-mêmes. Alexandre, s'il te plaît! Je me laissai tomber dans mon fauteuil et fermai les yeux. La douleur disparut, l'angoisse ressurgit. Alexandre, tu devrais rentrer chez toi et te reposer, me suggéra Michael. Tu me sembles au bout du rouleau. Il s'agenouilla auprès de moi et me contraignit à le regarder. Tu as vraiment vu un fantôme, n'est-ce pas? Je me contentai d'un signe affirmatif, puis détournai à nouveau les yeux. Ta femme? Je te l'avais dit qu'il était génial. Tu ferais mieux de t'en éloigner, sans quoi? Mon cœur s'affola. Je cherchais l'air comme un noyé, et mes mains se crispèrent sur les accoudoirs. Michael, toujours attentif aux réactions des autres, s'aperçut de tout cela, mais crut bon poursuivre la conversation. Tu ne m'as jamais parlé d'elle. Depuis quand es-tu veuf? Demanda-t-il en posant une main sur mon avant-bras, raidi par l'attention. Tu vas réellement continuer ce bavardage? Depuis 4 ans, répondis-je à voix basse. Comment s'appelait-elle? Léa, fis-je en m'étranglant. Je me mis à tousser pour chasser la salive que j'avais inhalée. Maïté lui ressemble? Je haussai les épaules. Si Maïté lui ressemble, Alexandre, dis-le-lui. Dis-lui que Léa, c'était autre chose. Que Léa, c'était la grande classe, l'élégance faite femme. Que Léa était merveilleuse, splendide, divine. Elle. Léa, Léa. Elle était spéciale. Spéciale? Oh, Alexandre. Si un jour tu décides à ne plus faire le médecin, tu pourrais te donner à l'écriture. Le mot juste au bon endroit. Spéciale. Je comprends. Non, je ne crois pas qu'il ait compris, notre petit génie. Elle te manque à ce point? Interrogea Michael. Tu as l'air tellement malheureux, ajouta-t-il. Alors, elle te manque? Réponds. Micha, pardonne-moi, mais je n'ai ni l'envie ni la force de poursuivre cette conversation, m'excusai-je en évitant le regard investigateur de mon collègue. C'est toi qui dois me pardonner, je ne devais pas être aussi curieux. Allons manger, fit Michael en se redressant. Manger? Oh Seigneur, j'avais oublié le self et le déjeuner. Nous étions à la mi-journée, et j'avais l'impression que depuis le matin il s'était écoulé une semaine entière. Je soupirai, puis, avec réticence, j'ôtai ma blouse et enfilai ma veste. Nous nous rendîmes au restaurant du CHG sans prononcer un mot. À table, je laissai parler Michael. Il me raconta d'un type qu'il avait connu la veille et le décrivit avec un humour tellement caustique qu'il m'arracha un éclat de rire. Il ne mentionna ni le boulot ni Maïté. Il voulut savoir de Quentin et de Laurent. Il avait l'intention d'acheter une montre et me dit qu'il irait voir si dans sa bijouterie mon fils possédait le modèle qu'il désirait. Michael connaissait Laurent et Quentin parce que je lui en parlais souvent, mais il ne les avait jamais rencontrés. Cachotier, comme d'habitude. Quand nous nous retrouvions ensemble lors du service, nous allions chez Michael ou nous sortions dans des bars ou des boîtes qu'il connaissait. Il ne m'avait jamais demandé de l'inviter à la maison, et je ne lui avais jamais proposé. Laurent et Quentin étaient mon jardin secret. Les mettre en contact avec mon monde extérieur équivalait à contaminer mon refuge. À moins que ce ne soit le contraire. Je mangeais consciencieusement tout ce que j'avais posé sur mon plateau sous les œillades discrètes de Michael. S'il avait su ce que me coûtait cet effort, il ne me l'aurait jamais demandé. Tu n'avais qu'à lui dire. Chaque bouchée augmentait la nausée qui m'avait pris en m'asseyant à table. Chaque fourchetée était une méchante claque à mon estomac et surtout à ma pauvre cervelle. J'allais chercher un café au distributeur et l'envoyer d'un coup rejoindre ce que j'avais déjà ingurgité. La caféine n'améliora pas la situation. Je pressais Michael. Je voulais remonter dans le service le plus rapidement possible, car je n'étais pas certain que mon repas resterait là où je l'avais mis. Je n'eus que le temps de me précipiter dans le cabinet de toilette et vomis avec violence. Comme au matin, Michael s'était placé derrière moi. Je l'entendis gémir alors qu'il me plaçait une main sur le dos pour me soutenir. Quand j'eus terminé, il me prit par le bras, me tira en arrière, puis me fit face. Nous nous dévisageâmes. Il avait des larmes dans les yeux. Les miens, malgré le vomissement, étaient secs et brûlants. Mon collègue essuya d'une main tremblante la sueur qui perlait à mon front, puis m'attira à lui et me serra dans ses bras. Je me laissai bercer en fermant les yeux. J'aimais, et à la fois je détestais ces instants de faiblesse. Que quelqu'un d'autre que Laurent s'inquiétât pour moi, me dorlota, m'emplissait d'une sérénité dont j'avais perdu le souvenir. Mais que ce quelqu'un fût un homme, me laissait un léger sentiment de culpabilité. J'avais décidé de ne pas trop me poser de questions, mais à certains moments, je ne pouvais m'empêcher de me demander où me porterait ce comportement. À m'inquiéter était aussi cette faiblesse que je percevais comme une menace. « Tu as toujours été faible, si on regarde bien !» Une fissure dans un mur construit avec la force du désespoir. « Avec ton sang, tu veux dire !» Et que je refusais de voir s'écrouler, me laissant à la merci de... « De qui ? De quoi ?»« Pourquoi, Alexandre ? Pourquoi » murmura-t-il. « Si tu le savais, pourquoi as-tu accepté ?»« Je croyais, j'espérais. Il faut te faire aider. Tu ne peux pas continuer comme cela. » Je me détachai lentement de Michael, qui me laissa aller à regret. « Micha, j'ai une dizaine de consultations à présent, il faut que j'y aille. J'aimerais que tu viennes à la maison ce soir. J'aimerais que tu dînes avec nous. Que tiens-tu tant à me démontrer ? Tu t'es déjà rendu malade une fois, ça suffit. Et puis, j'ai rendez-vous, » ajouta-t-il avec une irritation contenue. Il n'était pas fâché contre moi, je le savais. Je pense qu'il s'en voulait de m'avoir fait souffrir. Il avait ôté le couvercle d'un chaudron où bouillait une mixture qui m'empoisonnait et qui risquait de l'intoxiquer à son tour s'il en respirait les miasmes de trop près. Il était partagé entre l'envie de m'aider, la crainte de me blesser et la tristesse de me savoir en difficulté. Je voulais à tout prix éviter qu'il se sente coupable de quoi que ce soit, et j'insistai. Chez moi, je ne courais aucun danger. Je tenais à ce que Michael s'en rende compte, afin que ses doutes puissent s'apaiser. Et qu'il te fiche ainsi la paix, hein, avec ses questions et ses préoccupations. Si tu as un rendez-vous, c'était une occasion pour connaître enfin mes deux garçons. La paix à son prix, n'est-ce pas? Ils te plairont, j'en suis sûre. J'ai même peur que Laurent te plaise un peu trop, essayai-je de plaisanter. Pourquoi? Il te ressemble? Pas physiquement, non. Mais tu m'as dit que ce n'était pas mon physique à faire mon charme. S'il a ton caractère, je peux passer sur le physique. Tu aurais tort. On ne passe pas sur le physique de Laurent, précisai-je, pensif. Tu es en train de me faire l'article ou quoi? Demanda Michael en riant. Non, pas du tout, rétorquai-je un peu choqué. Je voulais simplement dire que Laurent est très beau, rien de plus. Et qu'il ait le portrait craché de Léa. Si tu viens, tu jugeras par toi-même. Mais je ne veux pas te priver d'une agréable soirée, ajoutai-je un peu pincé. Dis-moi qu'il s'agit d'une crise de jalousie, me taquina Micha. Absolument pas. On dit ça, rit-il en m'agitant un doigt sous le nez. Puis il fouilla dans la poche de ses pantalons et en tira un petit calepin qu'il feuilleta rapidement. Il se pencha sur son bureau, saisit le combiné du téléphone qu'il coinça entre son épaule et sa joue, et tout en maintenant ouvert le carnet d'une main, il composa un numéro. Monsieur Dupuis, je vous prie, pour le docteur Conrad. Sébastien? Salut, Michael. Très bien, merci. Je voulais te prévenir que j'arriverai plus tard que prévu, cela t'ennuie? Parfait, à ce soir. Micha raccrocha et rangea son agenda. Il se tourna vers moi et me sourit. « Allez, je viens admirer ton chef-d'œuvre. » « Sébastien, ne change pas de conversation. J'en étais resté à Paul. »« Tu suis cela de trop près pour être honnête, petit Alexandre. »« Tu crois ?»« J'en suis sûre, » minauda Micha qui me prit le menton dans une main et déposa au coin de mes lèvres un de ces baisers qu'il me réservait. « Va travailler, sinon je ne réponds pas de moi. »« Pense à Sébastien. » Fiche le camp! Je quittai le bureau, le cœur plus léger de quand j'y étais entrée. L'après-midi vola. Il était 19h30 quand mon dernier patient quitta la pièce que l'on m'avait assignée pour mes visites. J'étais épuisée, mais j'avais réussi à me concentrer sur mes malades sans que mes pensées se laissent attirer sur des chemins peu sûrs. Je me rendis dans le hall et choisis un café corsé que je sirotai, le dos appuyé au mini-marché qui proposait une multitude d'objets pouvant servir aux malades ou à leurs visiteurs. Pyjama, chemise de nuit, savon, biscuits, eau minérale, babioles à offrir en cadeau et autre chose encore. J'avais fermé les yeux et songeais au café que je me ferais en rentrant à la maison. Un vrai café, dont l'arôme se répandait en toi avant encore que tu aies trempé les lèvres. « Tu pensais à moi ?» murmura Michael à mon oreille. « Non, » répondis-je en ouvrant les yeux, content de le retrouver là. « Tu devrais apprendre l'art du mensonge. Quelquefois c'est nécessaire, tu sais. » Ça s'appelle prêcher un converti. Si tu allais te changer, nous pourrions quitter ce temple de la médecine. T'attends ici. Si je remonte, je suis certain qu'une infirmière me tombera dessus pour un dernier conseil. Dépêche-toi.